Chapitres 17 et 18. La sacrificature. Ces deux chapitres nous présentent l'origine, les responsabilités et les privilèges de la sacrificature. Celle-ci est une institution divine. Nul ne s'arroge cet honneur, mais seulement s'il est appelé de Dieu, ainsi que le fut aussi Aaron. Hébreux 5, verset 4. La verge qui bourgeonne. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle aux fils d'Israël et prends d'eux, de tous leurs princes, selon leur maison de père, une verge par maison de père, 12 verges. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef de leur maison de père. Et tu les poseras dans la tente d'assignation, devant le témoignage, où je me rencontre avec vous. Et il arrivera que la verge de l'homme que j'ai choisi bourgeonnera. Et je ferai cesser de devant moi les murmures des fils d'Israël, par lesquels ils murmurent contre vous. » Et Moïse parla aux fils d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge pour chaque prince, selon leur maison de père, 12 verges. Et la verge d'Aaron était au milieu de ces verges. Chapitre 17, versets 1 à 6. Quelle incomparable sagesse brille ici! L'affaire est complètement ôtée des mains de l'homme et placée uniquement dans les mains du Dieu vivant. Ce n'est pas un homme s'établissant lui-même, ou un homme établissant son semblable, c'est Dieu établissant l'homme de son propre choix, dans l'office que lui-même a institué. La question devait être définitivement résolue par Dieu lui-même, de sorte que tous les murmures soient étouffés à jamais et que personne ne puisse de nouveau accuser le souverain sacrificateur de s'élever lui-même. Les 12 verges, toutes dans une même condition, sont placées devant l'Éternel. Dans la solitude profonde du sanctuaire, loin de toutes les pensées des hommes, la grande question de la sacrificature va être fixée par la décision divine. Puis, une fois fixée, elle ne pourra jamais être soulevée de nouveau. Et Moïse posa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage, et il arriva le lendemain que Moïse entra dans la tente du témoignage, et voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait bourgeonné et avait poussé des boutons et avait produit des fleurs et mûri des amandes. Versets 7 et 8. Figure admirable de celui qui devait être déterminé fils de Dieu en puissance par la résurrection des morts. Romains 1, verset 4. Les 12 verges étaient toutes pareillement sans vie, mais Dieu, le Dieu vivant, entre en scène, et par la puissance qui lui appartient, il introduit la vie dans la verge d'Aaron et la présente portant sur elle les fruits exquis de la résurrection. Les rationalistes peuvent se moquer de cela et soulever toutes leurs objections. La foi contemple cette verge chargée de fruits et y découvre une belle image de la nouvelle création où toutes choses sont de Dieu. L'incrédulité peut prétendre qu'il est impossible qu'un bâton de bois sec ait bourgeonné et porté des fruits dans l'espace d'une nuit. Aux incrédules, aux rationalistes, aux sceptiques, cela paraît impossible parce qu'ils excluent toujours Dieu. L'incrédulité exclut invariablement Dieu. Elle formule ses raisonnements, puis en déduit ses conclusions dans les ténèbres. Comme elle exclut la seule source de lumière, elle demeure dans la plus profonde obscurité. Nous disons aux lecteurs chrétiens, et particulièrement aux jeunes chrétiens, n'admettez aucune question lorsque Dieu a parlé. Si vous le faites, Satan vous tiendra bientôt sous ses pieds. Votre seule et suffisante ressource contre lui se trouve dans la réponse « Il est écrit ». Satan ne peut jamais rien contre ce puissant argument qui annule tous les autres. Nous voyons ce fait démontré dans la tentation de notre Seigneur. L'ennemi, selon sa manière habituelle, s'approche du bien-aimé avec un doute. « Si tu es fils de Dieu ». Le Seigneur ne discute pas avec lui. « Il est écrit ». Telle est la réponse, 3 fois répétée, de l'homme obéissant et soumis. Telle doit être la nôtre, si nous voulons triompher à notre tour. Si donc quelqu'un demande au sujet de la verge d'Aaron, Comment une telle chose peut-elle se faire? Cela est contraire aux lois de la nature. Comment Dieu pourrait-il renverser les principes qu'il a lui-même établis dans la création? La réponse de la foi est toute simple. Dieu peut faire comme il lui plaît. Celui qui a appelé les mondes à l'existence peut, en un moment, faire bourgeonner, fleurir et fructifier une verge. Quand vous introduisez Dieu, le Dieu vivant et véritable, tout devient simple et clair. Quand vous mettez Dieu de côté, aussitôt tout est plongé dans une confusion désespérante. Vouloir assujettir le Tout-Puissant Créateur de l'univers aux lois de la nature, c'est une sottise et un blasphème. C'est presque pire que de nier tout à fait son existence. Il est difficile de dire quel est le pire, de l'athée qui prétend qu'il n'y a pas de Dieu, ou du rationaliste qui soutient que Dieu ne peut pas faire comme il lui plaît. Toutes sortes de théories affluent de nos jours. L'esprit de l'homme s'occupe à former des systèmes, à tirer des conclusions et à y raisonner. Il le fait en excluant complètement le témoignage des Saintes Écritures, de sorte qu'il sépare Dieu de ce qu'il a créé lui-même. Il faut que les jeunes gens soient sérieusement avertis de tout cela. On doit leur montrer l'immense différence qui existe entre les faits de la science et les conclusions des savants. Un fait est un fait, où que ce soit qu'on le rencontre, dans la géologie, dans l'astronomie ou dans telle autre branche de la science, mais les raisonnements, les conclusions et les systèmes sont tout à fait autre chose. Or, l'Écriture ne portera jamais atteinte aux faits réels que la science aurait pu constater, tandis que les raisonnements des savants se trouvent, le plus souvent, en collision avec l'Écriture. Combien il est malheureux qu'il y ait de tels hommes. Donnons toujours aux Saintes Écritures la première place dans nos cœurs et dans nos esprits. Inclinons-nous avec une soumission absolue devant elles. C'est notre seule sécurité contre le torrent envahissant de l'incrédulité. Un témoignage de la grâce de Dieu. Et Moïse porta toutes les verges de devant l'Éternel à tous les fils d'Israël, et ils les virent, et reprirent chacun sa verge. Et l'Éternel dit à Moïse, « Reporte la verge d'Aaron devant le témoignage, pour être gardé comme un signe aux fils de rébellion, et tu feras cesser leur murmure de devant moi, et ils ne mourront pas. » Et Moïse fit comme l'Éternel lui avait commandé, il fit ainsi. Versets 9 à 11. Ainsi la question était divinement résolue. La sacrificature est établie sur la grâce toute-puissante du Dieu qui tire la vie de la mort. C'est la source de la sacrificature. Là où il y avait des preuves précieuses d'une puissance vivifiante, des traces de vie et de bénédiction divine, des fruits odorants de grâce, là et là seulement, devait se trouver la source de ce ministère sacerdotal qui pouvait conduire à travers le désert un peuple non seulement nécessiteux, mais murmurant et rebelle. Pourquoi la verge de Moïse n'était-elle pas avec les 12? La raison en est simple. La verge de Moïse était le signe de la puissance et de l'autorité. Celle d'Aaron était le signe de la grâce qui vivifie les morts. Or, la puissance ou l'autorité seule ne pouvait pas mener le peuple à travers le désert. La puissance pouvait anéantir le rebelle, l'autorité pouvait frapper le pécheur, mais la miséricorde et la grâce étaient indispensables à une assemblée d'hommes, de femmes et d'enfants, tous nécessiteux, faibles, et pécheurs. La grâce, qui pouvait d'un bois mort faire surgir des amandes, pouvait aussi mener Israël à travers le désert. C'est seulement en rapport avec la verge d'Aaron que l'Éternel pouvait dire « Tu feras cesser leur murmure de devant moi, et ils ne mourront pas. » La verge de l'autorité pouvait ôter les murmurateurs, mais la verge de la grâce pouvait faire cesser les murmures. L'Épître aux Hébreux fait une allusion à la verge d'Aaron. L'apôtre, en parlant de l'arche de l'Alliance, dit « Dans laquelle était la cruche d'or qui renfermait la manne et la verge d'Aaron qui avait bourgeonné et les tables de l'Alliance. » Hébreux 9, verset 4. La verge et la manne étaient les provisions de la grâce divine pour la course et les besoins d'Israël dans le désert. Mais en 1 Roi 8, verset 9, nous lisons « Il n'y avait rien dans l'arche. » Sauf les deux tables de pierre que Moïse y plaça en Horeb, quand l'Éternel fit alliance avec les fils d'Israël, lorsqu'ils sortirent du pays d'Égypte. Le pèlerinage du désert ayant pris fin, et la gloire des jours de Salomon brillant sur le pays, la verge bourgeonnante et la manne sont omises. Il ne reste plus que la loi de Dieu, base de son juste jugement au milieu de son peuple. Faisons bien la différence entre la verge de Moïse et celle d'Aaron. Nous avons vu la première opérant son œuvre caractéristique lors de la sortie d'Égypte. Nous avons vu ce pays tremblant sous les coups accablants de cette verge, lorsque plaie sur plaie tombait sur lui. Nous avons vu les eaux de la mer se séparer sous cette verge de puissance et d'autorité. Mais elle était impropre à apaiser les murmures des enfants d'Israël et à conduire le peuple à travers le désert. Il fallait la grâce pour cela. Cette grâce libre et souveraine, figurée par le bourgeonnement de la verge d'Aaron. Cette baguette sèche, morte, était la vraie image de l'état naturel d'Israël et de chacun de nous. Il n'y avait ni sève, ni vie, ni puissance. Que pouvait-il en sortir de bon? Rien du tout, si la grâce n'était pas survenue et n'avait pas déployé sa puissance vivifiante. Ainsi en était-il d'Israël au désert. Ainsi en est-il de nous maintenant. La sacrificature et le ministère. Tout ministère dans l'Église de Dieu, comme la sacrificature autrefois, est le fruit de la grâce divine, un don de Christ, chef de l'Église, ainsi que Paul le dit aux Galates en parlant de lui-même. Apôtre, non de la part des hommes, ni par l'homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Galates 1, verset 1. On voit ici l'unique source de laquelle émane tout ministère. L'homme n'y est pour rien. L'homme peut ramasser du bois sec, le travailler, le façonner à son gré, il peut le consacrer et l'établir, lui donner certains titres officiels bien ronflants, mais à quoi bon s'il n'y a ni bouton, ni fleur, ni fruit? Seul un don donné par Christ fait d'un homme un ministre. Sans cela, s'établir ministre soi-même ou être établi ministre par les autres n'est qu'une présomption vide. Sommes-nous bien conscients de ce grand principe? Relisons et étudions dans la présence de Dieu des passages tels que 1 Corinthiens 12 et 14 et Éphésiens 4, versets 7 à 16. On y trouvera exposé le sujet du ministère. On y apprendra que tous les vrais ministères, que ce soit apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs ou évangélistes, viennent de Dieu, de Christ, le chef de l'Église, haut élevé dans le ciel. Si un homme ne possède pas ce don de la part de Christ, il n'est pas ministre. Le Nouveau Testament ne fait nulle part mention d'un ministère ordonné par l'homme dans l'Église de Dieu. Dieu a placé les membres, chacun d'eux, dans le corps comme il l'a voulu. 1 Corinthiens 12, verset 18. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi, il dit, « Étant monté en haut, il a emmené captive la captivité et a donné des dons aux hommes. » Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Éphésiens 4, versets 7 à 13. Ici, tous les dons pour le ministère sont placés sur un seul et même terrain, depuis les apôtres jusqu'aux évangélistes et aux docteurs. Ils sont tous conférés par le chef de l'Église. Une fois accordés, ils rendent leur possesseur responsable d'abord envers la tête, ou chef, qui est dans les cieux, puis envers les membres qui sont sur la terre. L'idée que le possesseur d'un don de Dieu doive se faire consacrer par une autorité humaine n'est qu'une insulte à la majesté de Dieu. Aaron était appelé de Dieu, et cela lui suffisait. Maintenant aussi, tous ceux qui possèdent un don de Dieu sont appelés par lui au ministère et n'ont besoin de rien d'autre que de s'acquitter de leur tâche en exerçant le don qu'ils ont reçu. Les enfants de Dieu peuvent aisément voir où se trouve un don spirituel réel, car sa puissance se manifestera sûrement et clairement là où il s'exercera. Le discernement, la soumission à ses ministères sont l'affaire des membres du corps et constituent leur responsabilité. Mais si les hommes prétendent à un don ou à la puissance sans en avoir la réalité, leur folie sera bientôt manifestée devant tous. En opposition avec ce qui concerne les dons et le ministère, tous les croyants sont aujourd'hui sacrificateurs selon l'enseignement du Nouveau Testament. 1 Pierre 2, verset 9, Apocalypse 1, versets 5 et 6, Hébreux 10, versets 19 à 22 et 13, versets 15 à 16. Quelle chose extraordinaire pour les croyants juifs qui avaient été élevés dans les institutions de la loi d'être exhortés à entrer dans un lieu où seul le souverain sacrificateur en Israël pouvait entrer, et cela une fois l'an et pour un instant seulement. Et c'est bien notre privilège à tous, si nous nous laissons enseigner par l'Écriture. Tous les chrétiens ne sont pas apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs ou évangélistes, mais ils sont tous sacrificateurs. Le plus faible membre de l'Église est un sacrificateur aussi bien que Pierre, Paul, Jacques ou Jean. Nous ne parlons pas de capacité ou de puissance spirituelle, mais d'une position que tous occupent en vertu du sang de Christ. Il n'est pas fait mention dans le Nouveau Testament d'une certaine classe d'hommes ou d'une certaine caste privilégiée qui serait placée dans une position plus élevée ou plus rapprochée de Dieu que les simples frères. Tout cela est complètement opposé au christianisme. Crainte déplacée. Les dernières lignes du chapitre 17 nous montrent la rapidité avec laquelle l'esprit de l'homme passe d'un extrême à l'autre. Et les fils d'Israël parlèrent à Moïse, disant « Voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche en aucune manière du tabernacle de l'Éternel meurt. Faut-il donc que nous expirions tous ?» Versets 12 et 13. Dans le chapitre précédent, nous voyons l'orgueil en présence même de la majesté de l'Éternel, lorsqu'il aurait dû y avoir une profonde humilité. Ici, en présence de la grâce divine et de ses ressources, nous voyons la crainte et la défiance. Il en est toujours ainsi. La nature humaine ne comprend ni la sainteté ni la grâce. L'homme charnel s'enorgueillit quand il devrait s'humilier, et il se méfie lorsqu'il devrait se confier. Cependant, ceci fournit l'occasion de nous révéler les saintes responsabilités aussi bien que les précieux privilèges de la sacrificature. Quelle bonté de la part de notre Dieu de profiter des erreurs de son peuple pour lui faire connaître plus profondément ses voies. C'est sa prérogative, béni soit son nom, de tirer le bien du mal. Ainsi, la contradiction de Corée donne lieu à la grande abondance d'instructions fournies par la verge d'Aaron, et les dernières lignes du chapitre 17 introduisent un exposé détaillé des fonctions de la sacrificature d'Aaron. Les Lévites, serviteurs d'Aaron. Et l'Éternel dit à Aaron, « Toi et tes fils et la maison de ton père avec toi, vous porterez l'iniquité du sanctuaire, et toi et tes fils avec toi, vous porterez l'iniquité de votre sacrificature. Et fais aussi approcher tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père avec toi, et ils te seront adjoints, et ils te serviront. Et toi et tes fils avec toi, vous servirez devant la tente du témoignage, et ils vaqueront à ce dont tu leur donneras la charge, et au service de toute la tente. Seulement, ils n'approcheront pas des ustensiles du lieu saint et de l'autel, de peur qu'ils ne meurent, eux et vous aussi. Et ils te seront adjoints, et ils seront chargés de ce qui concerne la tente d'assignation, selon tout le service de la tente, et nul étranger n'approchera de vous. Et vous serez chargés de ce qui concerne le lieu saint et de ce qui concerne l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les fils d'Israël. Et moi, voici, j'ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des fils d'Israël, ils vous sont donnés en don pour l'Éternel, afin qu'ils s'emploient au service de la tente d'assignation. Et toi et tes fils avec toi, vous accomplirez les fonctions de votre sacrificature en tout ce qui regarde l'autel et relativement à ce qui est au-dedans du voile, et vous ferez le service. Je vous donne votre sacrificature comme un service de pur don, et l'étranger qui approchera sera mis à mort. Chapitre 18, versets 1 à 7. Ici, nous avons une réponse divine à la question soulevée par les enfants d'Israël. Faut-il donc que nous expirions tous? Aaron et ses fils sont chargés de ce qui concerne le lieu saint et de ce qui concerne l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les fils d'Israël. Ainsi, le peuple apprend que c'est dans cette sacrificature même qu'il avait méprisée et contre laquelle il avait parlé qu'il devait trouver sa sécurité. Nous devons noter soigneusement que les fils d'Aaron et la tribu de Lévi lui étaient associés dans ses responsabilités et dans ses privilèges. Les Lévites étaient offerts comme un don à Aaron pour faire le service du tabernacle. Ils devaient servir sous lui, qui était le chef de la maison sacerdotale. Cela nous donne une belle leçon bien nécessaire aux chrétiens de nos jours. Nous avons besoin de nous rappeler que tout service, pour être intelligent et acceptable, doit être fait avec soumission à l'autorité et à la direction de Christ. Ils te seront adjoints et ils te serviront. La tribu de Lévi entière était associée au souverain sacrificateur et lui était soumise. Tout était sous sa direction et son contrôle immédiat. Il doit en être de même maintenant quant à tous les ouvriers de Dieu. On peut déployer une grande activité, mais si Christ n'est pas l'objet immédiat du cœur, si ses directions ne sont pas suivies, si son autorité n'est pas pleinement reconnue, l'œuvre ne servira de rien. D'un autre côté, le plus petit acte de service, la moindre œuvre faite sous le regard de Christ, en rapport direct avec lui, a sa valeur aux yeux de Dieu et recevra certainement sa récompense. Des ouvriers soumis à leur chef. Les Lévites devaient travailler sous Aaron. Les chrétiens doivent travailler sous Christ. C'est envers lui que nous sommes responsables. Il est très bien et très beau de marcher en accord avec nos compagnons d'œuvre et d'être soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Éphésiens 5, verset 21. Cependant, la plus harmonieuse action collective n'ôte rien à notre responsabilité individuelle. Nous ne devons jamais accepter que l'unité d'action empiète sur le domaine du service personnel ou qu'elle intervienne dans les rapports directs et individuels de l'ouvrier avec son Seigneur. L'Église de Dieu offre un champ de travail très étendu à toutes sortes d'ouvriers du Seigneur. Nous ne devons pas chercher à les réduire tous à un niveau semblable ou à restreindre les diverses activités des serviteurs de Christ en les confinant dans certaines vieilles ornières de notre propre création. Laissons la place à la plus grande variété d'actions individuelles en nous souvenant que nous sommes appelés à servir ensemble sous Christ. Voilà le grand secret. Ensemble, sous Christ. Puissions-nous nous en souvenir. Cela nous aidera à reconnaître et à apprécier la ligne de travail d'un autre, quoiqu'elle puisse différer de la nôtre. Cela nous préservera en outre de tout sentiment d'orgueil quant à notre part de service, sachant que nous ne sommes, les uns et les autres, que des coopérateurs dans un seul et même immense champ, et que le grand but que se propose le cœur du maître ne peut être atteint que si chaque ouvrier suit sa ligne spéciale de travaux et la suit dans un heureux accord avec tous les autres. Il ne s'agit pas seulement du genre de travail, mais encore de la manière particulière dont chaque ouvrier s'en acquitte. On trouvera deux évangélistes distingués, chacun par un vif désir pour le salut des âmes, prêchant chacun la même vérité, quoiqu'il puisse y avoir des différences dans la manière dont chacun cherchera à atteindre le même but. Le même principe s'applique à toutes les autres branches de service chrétien. Rien ne devrait être fait qui ne le soit dans la dépendance et sous les ordres de Christ. Et tout ce qui peut être fait ainsi le sera sûrement en communion et d'accord avec ceux qui marchent avec Christ. Le service sacerdotal. Revenant maintenant aux fils d'Aaron, nous méditerons sur la riche provision faite pour eux dans la bonté de Dieu et sur les solennelles fonctions qui leur étaient échues dans leur position sacerdotale. Et l'Éternel parla à Aaron. Et moi, voici, je t'ai donné la charge de mes offrandes élevées, de toutes les choses saintes des fils d'Israël. Je te les ai données à cause de l'onction, et à tes fils par statut perpétuel. Ceci sera à toi des choses très saintes qui n'ont pas été consumées, toutes leurs offrandes, savoir toutes leurs offrandes de gâteaux, et tous leurs sacrifices pour le péché, et tous leurs sacrifices pour le délit qu'ils m'apporteront. Ce sont des choses très saintes pour toi et pour tes fils. Tu les mangeras comme des choses très saintes, tout mâle en mangera, ce sera pour toi une chose sainte. Versets 8 à 10. Nous avons ici un type du peuple de Dieu, vu sous un autre aspect. Ceux qui le composent sont présentés non comme des ouvriers, mais comme des adorateurs, non comme des lévites, mais comme sacrificateurs. Tous les croyants, tous les enfants de Dieu, sont sacrificateurs. Une caste sacerdotale spéciale est une chose non seulement inconnue dans le christianisme, mais très positivement contraire à son esprit et à ses principes. Nous avons déjà examiné ce sujet et cité les divers passages de l'Écriture qui s'y rapportent. Pour entrer hardiment dans le sanctuaire, il faut que nous sachions ce que le sang de Christ a fait pour nous. Il faut que nous sachions que nous sommes faits sacrificateurs pour Dieu, et qu'en vertu de la mort expiatoire de Christ, nous sommes appelés tellement près de Dieu qu'il est impossible à qui que ce soit de s'interposer entre lui et nous. Jésus nous aime et nous a lavés de nos péchés dans son sang, et il nous a fait un royaume des sacrificateurs pour son Dieu et Père. Apocalypse 1, versets 5 et 6. Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et encore, vous-même aussi comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2, versets 9 et 5. Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Mais n'oubliez pas la bienfaisance et de faire part de vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Hébreux 13, versets 15 et 16. Nous trouvons dans ce dernier verset deux genres de sacrifices, la louange à Dieu et la bienfaisance envers les hommes. Le chrétien le plus jeune, le plus inexpérimenté, le plus illettré, est capable de louer le Seigneur et peut, de ses mains, faire du bien à son prochain. Voilà le culte et le service commun à tous les vrais chrétiens. La mesure de la puissance spirituelle peut varier, mais tous les enfants de Dieu sont constitués sacrificateurs, et cela, sur un seul et même rang. Le chapitre 18 des Nombres nous présente un exposé très complet de la part faite à Aaron et à sa maison. C'est un type de ce qui appartient à la sacrificature chrétienne. Nous ne pouvons pas lire ce récit sans comprendre quelle glorieuse part est la nôtre. Toutes leurs offrandes, savoir toutes leurs offrandes de gâteaux et tous leurs sacrifices pour le péché, et tous leurs sacrifices pour le délit qu'ils m'apporteront, ce sont des choses très saintes pour toi et pour tes fils. Tu les mangeras comme des choses très saintes, tout mâle en mangera. Ce sera pour toi une chose sainte. Versets 9 et 10. Manger le sacrifice pour le péché. Il faut une grande mesure de capacité spirituelle pour saisir la profondeur et la signification de l'expression « manger » le sacrifice pour le péché ou le sacrifice pour le délit. C'est, en figure, s'identifier avec le péché d'autrui. C'est une œuvre très sainte. Il n'est certes pas facile de s'identifier, en esprit, avec le péché de son frère. Le faire en vue de la propitiation, c'est, nous n'avons guère besoin de le dire, totalement impossible pour nous. Christ seul a pu le faire et l'a fait parfaitement. Mais une chose est possible, c'est de prendre le péché de mon frère et de le porter en esprit devant Dieu comme s'il était le mien propre. Ceci est représenté par l'action du fils d'Aaron mangeant le sacrifice pour le péché dans un lieu très saint. Ce n'était que les fils qui faisaient cela. Tout mâle en mangera. C'était l'office le plus élevé du service sacerdotal. Tu les mangeras comme des choses très saintes. Nous avons besoin d'être bien près de Christ pour saisir le sens spirituel de tout cela. C'est un exercice merveilleusement saint et béni, et on ne peut le connaître que dans la présence immédiate de Dieu. Il nous convient de confesser combien peu nous le connaissons réellement. Notre tendance habituelle est de porter un jugement sur un frère quand il a péché, de prendre une position de juge, de regarder son péché comme quelque chose avec quoi nous n'avons absolument rien à faire. Et faisant cela, nous manquons tristement à nos fonctions de sacrificateur. Nous refusons de manger le sacrifice pour le péché dans le lieu très saint. C'est un fruit de la grâce que de nous identifier avec un frère égaré, jusqu'à pouvoir nous charger de son péché comme s'il était le nôtre, et de le porter en esprit devant Dieu. C'est là vraiment un ordre supérieur du service sacerdotal qui exige une grande mesure de l'esprit et de la pensée de Christ. Frères, quand même un homme s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez un tel homme dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les charges les uns des autres, et ainsi accomplissez la loi du Christ. Galates 6, versets 1 et 2. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'accomplir cette loi bénie. Combien elle ressemble peu à ce qui se trouve en nous. Comme elle condamne notre dureté et notre égoïsme. Oh, soyons plus semblables à Christ en ceci comme en toute autre chose. Les offrandes élevées. Il y avait un autre office sacerdotal, moins élevé que celui que nous venons de considérer. Et ceci sera à toi, les offrandes élevées de leurs dons, avec toutes les offrandes tournoyées des fils d'Israël. Je te les ai données, et à tes fils, et à tes filles avec toi, par statut perpétuel. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Verset 11. Les filles d'Aaron ne devaient pas manger les offrandes pour le péché ou les offrandes pour le délit. Il y avait certaines fonctions qu'elles ne pouvaient remplir, certains privilèges qui étaient au-delà de leur portée, certaines responsabilités qui étaient trop pesantes pour elles. Il est beaucoup plus facile de se joindre à un autre pour présenter un holocauste que pour prendre sur soi le péché d'autrui. Ce dernier acte demande une mesure d'énergie sacerdotale qui trouve son type dans les fils d'Aaron et non dans ses filles. Nous devons nous attendre à ses capacités variées dans la maison sacerdotale que constitue la famille chrétienne. Nous avons tous les mêmes titres, nous sommes tous dans la même relation, mais nos capacités varient. Et quoique nous devions tous aspirer au plus haut degré du service sacerdotal, nous devons nous garder de prétendre à ce que nous ne possédons pas. Une chose cependant est clairement enseignée au verset 11. Nous devons être purs pour jouir de nos privilèges. Purs par le sang précieux de Christ appliqué à notre conscience, purs par l'application de la parole, par l'esprit à nos habitudes, à nos relations et à nos voies. Quand nous sommes ainsi purs, quelle que soit notre capacité, la plus riche nourriture est assurée à nos âmes par la précieuse grâce de Dieu. Tout le meilleur de l'huile et tout le meilleur du moût et du froment, les prémices qu'ils donneront à l'Éternel, je te les donne. Les premiers fruits de tout ce qui est dans leur pays, qu'ils apporteront à l'Éternel, seront à toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Versets 12 et 13. Assurément, nous avons là une part princière accordée à ceux qui sont faits sacrificateurs pour Dieu. Ils devaient avoir la meilleure partie et les premiers fruits de tout ce que produisait la terre de l'Éternel. Quelle image nous avons en tout cela de notre part en Christ ! L'olive et le raisin étaient pressurés, et le froment était moulu, afin de nourrir et de réjouir les sacrificateurs de Dieu. Christ, dont toutes ces choses sont le type, a été meurtri et mené à la mort, afin que par sa chair et son sang, il puisse donner à sa maison la vie, la force et la joie. Lui, le précieux grain de froment, est tombé en terre et il est mort, afin que nous puissions vivre. Que nous faut-il encore, si ce n'est une plus grande aptitude, à jouir de la richesse et de la valeur de ce que nous possédons en un Sauveur crucifié, ressuscité et glorifié? Nous avons amplement de tout et nous sommes dans l'abondance. Dieu nous a donné tout ce qu'il pouvait nous donner, ce qu'il avait de meilleur. Il nous a appelés à nous asseoir avec lui, dans une communion sainte et heureuse, et à nous nourrir du veau gras. Il a fait entendre à nos oreilles et saisir à nos cœurs, en quelque mesure, ces merveilleuses paroles « Mangeons et faisons bonne chère ». Il est admirable de penser à cette satisfaction que trouvent le cœur et l'esprit de Dieu lorsqu'il réunit son peuple autour de lui pour le nourrir de ce qui fait ses propres délices. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 1, verset 3. Et qui sont ceux auxquels Dieu accorde un tel privilège? Des hommes qui étaient morts dans leurs fautes et dans leurs péchés, des ennemis, des coupables rebelles qui étaient loin de lui et qui n'avaient mérité que les flammes éternelles de l'enfer. Oh, quelle grâce merveilleuse! Quelle insondable profondeur de souveraine miséricorde! Apprenons à jouir de notre place et de notre part de sacrificateur. Nous ne pouvons ici-bas rien faire de mieux, rien de plus élevé, que de présenter à Dieu, par Jésus-Christ, le fruit de lèvres qui bénissent son nom. Ce sera notre éternelle occupation dans ce séjour où nous serons bientôt pour y habiter à jamais avec Dieu, avec notre Sauveur qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous. Le rachat des premiers-nés. Dans les versets 14 à 19, nous avons des instructions touchant les premiers-nés, tout ce qui ouvre la matrice, tant homme que bête. Remarquons que l'homme est placé sur le même niveau que les bêtes impures. Les deux devaient être rachetés. La bête impure n'était pas digne de Dieu. L'homme non plus, à moins qu'il ne soit racheté par le sang. L'animal pur ne devait pas être racheté. Il était propre à l'usage de Dieu et était donné pour nourriture à toute la maison du sacrificateur, aux fils et aux filles également. En ceci, nous avons un type de Christ. Il est l'unique objet dans lequel Dieu puisse trouver une entière satisfaction et qu'il nous a donné, à nous, sa maison sacerdotale, pour être notre nourriture, notre lumière, notre joie, notre tout à jamais. Pour de plus amples détails sur le sujet des premiers-nés, nous renvoyons le lecteur aux notes sur le livre de l'Exode, chapitre 13. Pas d'héritage terrestre pour les Lévites. On peut remarquer dans ce chapitre, comme souvent ailleurs, que chaque nouveau sujet est introduit par les mots « Et l'Éternel parla à Moïse » ou « Et l'Éternel parla à Aaron ». Ainsi, les versets 20 à 23 nous enseignent que les sacrificateurs et les Lévites, en type les adorateurs et les ouvriers de Dieu, ne devaient pas avoir d'héritage parmi les enfants d'Israël, mais qu'ils devaient dépendre absolument de Dieu seul pour leur subsistance et pour tous leurs besoins. Position des plus bénis. Les Israélites devaient apporter leurs offrandes et les déposer aux pieds de l'Éternel qui, dans sa grâce, commandait à ses ouvriers de les recueillir et de s'en nourrir en sa présence. Dieu pourvoyait à tous les besoins de son peuple, et celui-ci avait le privilège de partager les fruits abondants que Dieu leur donnait avec les sacrificateurs et les Lévites. Puis, il était permis à ces derniers de faire eux-mêmes hommage à Dieu des biens qu'il avait répandus sur eux. C'est une figure que nous devrions toujours réaliser dans l'Église de Dieu sur la terre. Comme nous l'avons déjà remarqué, le peuple de Dieu est présenté dans ce livre sous trois aspects, comme guerrier, comme ouvrier et comme adorateur. Sous ces trois aspects aussi, il est vu dans l'attitude d'une dépendance absolue du Dieu vivant. Dans nos luttes, dans notre travail et dans notre culte, nous dépendons de Dieu. « Toutes mes sources sont en toi, » dit le psalmiste. Psaume 87, verset 7. Que nous faut-il de plus ?